L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici
dans le monde. Des valses, une heure de temps.
Ah oui, oh. Une heure et quart.
Et bonjour, vous êtes dans l'écho du parquet, votre rendez-vous bimensuel sur les musiques et danses traditionnelles que vous retrouvez sur Radio Méga 99.2 FM dans la région de Valence, sur Radio Saint-Féréol 94.2 FM dans la région de Cré et sur Fréquence 7, région d'Aubenas 92 FM.
Voilà, et région du monde, écoutable sur notre audioblog sur Arte Radio
et au-delà du monde,
voilà. Si vous nous écoutez depuis l'autre bout de l'univers, c'est sur Arte Audioblog qu'il faut vous connecter. Aujourd'hui, nous sommes l'émission numéro 18. Nous allons vous proposer un sujet consacré au musicien et danseur Lucas Thébault. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission, mais tout de suite, on va s'écouter un petit peu de musique.
Thank you.
vient d'écouter Amupastre Nomade de Sarai sur un premier disque qui est sorti en début d'année. Alors l'idée de ce groupe, c'est de faire revivre un répertoire de chants amoureux occitans écrits par des femmes du Moyen-Âge à nos jours. Alors c'est des chants amoureux mais pas de mièvrerie, les textes sont choisis. Vous jugerez par vous-même, peut-être vous trouverez ça mièvre. Mais les textes sont choisis avec soin parmi les fonds documentaires du CIRDOC et parlent d'amour libre ou d'érotisme. On peut avoir comme exemple la traduction des paroles du morceau qu'on vient d'écouter, qui est tiré d'un texte contemporain d'Aurélia Lassac. Alors je vous lis la traduction. « À mon berger nomade, à l'heure où tes baisers se paraient de promesses au nom du peuple libre, pleine encore de toi, je me suis vu oiseau, offrant mon corps à la morsure des soleils, portant en étendard le creux qui laissera ta flèche. Je me suis vu demain, agrippé au pelage d'animaux rendus aveugles, gravissant les montagnes au son des tambours, et je t'ai senti fondre en moi, sous une pluie d'étoiles, exhortant les aubes à ralentir leur chute. »
Oh que c'est beau!
Alors dans Sarai, qui se décline en bal ou en concert, on retrouve Juliette Mainvielle au chant et aux percussions, avec quelques compos aussi, et Sophie Cavez, dont on vous a déjà parlé ici, à l'accordéon diatonique, et puis Balthazar Montanaro au violon baryton. Par ailleurs, on vous recommande chaudement le duo Cavez-Montanaro, qui fait aussi des merveilles.
Et maintenant, on va entendre une interview de Lucas Thébault. C'est le sujet du jour qu'on vous propose. C'est une interview qu'on a réalisée en avril dernier lors de sa venue à Saint-Lager-Bressac, près de Privas, pour y animer un stage de musique du Poitou et un bal en solo. Et l'interview, je dois le dire, a été réalisée dans des conditions difficiles, en plein air, avec le vent, les gens qui passent et qui parlent fort et qui ont plein de trucs à se dire juste à côté de nous, et bien sûr, les voitures, les motos et même un quad qui décide de venir stationner juste à côté de nous. Mais néanmoins, Lucas a fait preuve d'une patience d'ange et d'une grande rigueur dans la structuration de ses réponses, qui fait qu'en s'y reprenant à plusieurs fois et en répétant plusieurs fois les mêmes choses, on a quelque chose qui nous semble quand même tout à fait écoutable et surtout très intéressant sur le fond, et que ça valait la peine de vous diffuser. Voici donc Lucas Thébault, musicien diatoniste dans différents groupes et formateur en danse.
Alors, moi, ça commence, il y a d'abord une imprégnation, parce qu'effectivement, quand je suis né, mes parents, eux, se connaissaient par l'intermédiaire, on peut dire, plus ou moins d'un groupe de danse, d'un groupe de... une assos de musique trad, ou dans un village où vraiment les jeunes du village allaient là-bas, histoire de croisement de famille, et puis mes parents se sont rencontrés. Donc moi, quand j'étais petit... c'était quelque chose qui était quand même dans mon environnement. Régulièrement, on m'emmenait au bal, même si j'étais parmi les gamins qui courent entre les chaises. Et mon père faisait du violon, déjà. Donc c'était familier. Pour autant, j'ai pas commencé à danser petit, j'ai pas commencé à jouer de la musique petit. Mes parents sont séparés quand j'étais jeune, c'est sorti un peu de mon périmètre. Et je me suis vraiment reconnecté à tout ça à l'adolescence. D'abord en écoutant de la musique, et une fois à l'université, je me suis mis à danser à la fin de ma première année pour suivre des amis au départ, et puis en fait j'ai mordu dans la danse comme jamais j'avais mordu dans quelque chose auparavant, et ça faisait déjà un moment que j'avais aussi envie de faire de la musique, mais je me heurtais tout le temps à des problèmes de timidité. J'arrivais pas à jouer, j'étais trop mort de peur, quoi. Puis voilà, il a fallu attendre que l'envie soit suffisamment forte pour que qu'elle dépasse la peur et que je me jette à l'eau. Et donc j'ai commencé à jouer de la musique. J'étais aussi à l'université, mais un an après, il a fallu comme ça un petit peu de temps.
Est-ce
Est-ce que tu peux présenter les différentes formations dans lesquelles tu joues et ce que chacune d'entre elles t'apporte spécifiquement d'un point de vue musical?
Alors, j'en ai eu beaucoup des formations musicales. J'ai un peu réduit la voilure il y a quelques années parce que j'avais, comme j'ai commencé à vouloir me professionnaliser à un moment où j'en avais pas encore les moyens, j'ai très vite adopté la stratégie de « je dis oui à tout ». Je dis oui à tout, je monte des nouveaux projets tout le temps, dès qu'on me propose un truc, je dis oui. Donc, avec pratiquement au moins minimum un nouveau groupe par an, je me suis retrouvé au bout de 10-15 ans, enfin de 10 ans dans l'état d'esprit de « bon, ok, j'ai 10 groupes maintenant, ça devient compliqué à gérer ». Chaque groupe devient presque concurrent des autres en termes de disponibilité d'investissement. Donc j'ai un peu réduit la voilure. Je voulais avoir des formations avec déjà des nombres de personnes différentes. Donc du plus petit au plus grand dans les groupes vraiment dans lesquels je suis très investi en ce moment, il y a le bal solo qui est quand même beaucoup demandé. Alors lui, ça n'a pas été un projet que j'ai initié moi-même. C'est venu de demandes d'organisateurs qui avaient pour début pour des raisons financières qui demandaient de venir faire un bal. Et puis il y a des stages, par exemple, quand j'allais animer un stage de danse, tu resterais pas faire un bal le soir. Bon, au final, ça m'a posé un petit peu des questions. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Et j'ai trouvé une case qui m'a plu et dans laquelle j'ai pris plaisir à développer ce truc-là. C'était la case de me dire, on pourrait faire la musique la plus complexe, la plus écrite et la plus élaborée qu'on veut avec un accordéon seul ou un instrument seul, quoi, quel qu'il soit. Le résultat, ce sera toujours en niveau timbral, ce sera un accordéon qui joue tout seul. Et ça va vite devenir quelque chose où ça va demander beaucoup d'exigences de jeu pour un rendu limité. Surtout que j'ai d'autres groupes avec plus de possibilités de développement. Du coup, je me suis plutôt posé la question de me dire, ok, quand on fait un bal solo, quand on fait appel à un accordéoniste pour un bal solo, concrètement, on a surtout besoin de quelqu'un qui fasse danser d'une manière simple et tout. Donc moi, j'ai plutôt choisi de faire un répertoire de morceaux confort pour moi, qui sont vraiment dans ma zone de confort, qui me mettent pas au maximum de l'exigence, comme ça peut être le cas dans d'autres groupes, de manière à me laisser une marge de manœuvre, déjà quand je joue, une marge de liberté, une marge de variation, et puis d'être aussi plus présent pour être disponible avec les gens, plus d'interactions avec les danseurs, et me permettre aussi quelque chose que je trouve très agréable à faire, c'est un fonctionnement un petit peu de jukebox. C'est-à-dire il y a une partie des morceaux que j'amène moi dans le solo et puis je propose toujours aux gens s'ils ont des souhaits de venir le demander. Si on me demande des danses dont je ne sais vraiment pas jouer quoi que ce soit, je le dis. Mais si c'est des choses que je sais un peu jouer, même si parfois ça va nécessiter que je joue quelque chose de très simple, par exemple que la mélodie ou des choses comme ça, j'aurais plaisir à me prendre au jeu et à essayer de le faire. Et ça donne un truc assez vivant avec beaucoup d'interactions. Moi ça j'aime bien ça c'est assez cool. Si on passe au duo, le duo principalement que j'ai en ce moment, c'est un duo qui s'appelle Turbo Ball avec Cécile Delru qui fait violon, viol à roue et chant. Où là, on est sur un répertoire mixte Poitou, Limousin et Balfolk généraliste. Là, c'est le côté polyvalent qui est mis en avant. Avec du coup, comme il y a pas mal d'instruments différents, moi-même j'ai deux accordéons dedans, j'ai un sol do, un la ré, on essaie de varier un peu les timbres, les ambiances, les couleurs. Il y a le côté chanson qui marche bien, Cécile qui est une super chanteuse. Et on s'est mis à faire ce duo aussi sur le côté un peu énergique qu'on avait tous les deux dans le rapport à la musique à danser, d'où le nom du groupe Turbo Ball, où on assume un peu la casquette de là on y va pour jouer un peu à fond les ballons, enfin pas trop vite, mais un peu genre. On met tout ce qu'on peut comme énergie dans la limite d'un duo. On s'habille en paillettes, on a un truc un peu festif, c'est très festif quoi. Et là ça marche bien, c'est assez chouette. Et le duo permet quand même beaucoup de polyvalence et beaucoup de variations tout seul.
Thank you.
J'ai toujours le groupe Bossy Swing qui existe maintenant depuis 13 ans, qui est donc avec Colin Delzan au violoncelle et Valère Passerie au violon, où là c'est complètement un autre propos. Alors le répertoire c'est plutôt généraliste, et c'est deux musiciens qui ont la double casquette, on va dire, d'être vraiment très versés dans la musique de bal, avec chacun une formation classique aussi au départ, donc qui a permis, surtout avec deux cordes comme ça, d'avoir à la fois des morceaux simples et aussi des morceaux très écrits, très arrangés, avec beaucoup de voilà, d'arrangements pointus, avec les voix, les cordes, les harmonies. Et il se trouve que c'est aussi mes deux meilleurs amis, quoi. Donc on a trouvé une complicité musicale qui nous plaît. Et là, c'est peut-être plutôt le paysage musical qu'on met en avant là-dessus, sans concession pour autant sur le groove et sur les exigences de danse, parce qu'on est tous assez exigeants là-dessus. Mais voilà, beaucoup plus un univers de composition, un peu moins traditionnel. Et peut-être que c'est un groupe qui s'adresse à des gens qui sont déjà soit un peu à l'aise avec la danse, soit un peu à l'aise avec la musique. C'est un petit peu plus délicat pour des gens qui à la fois doivent vraiment faire des efforts pour se repérer simplement dans la musique et qui en plus apprennent les pas de danse. Mais voilà, il y a de belles choses. On a fait deux CD avec ce groupe. C'est vraiment, on est très content de ça, quoi. Et après, il y a le groupe Petit Piment, un quartet, donc avec Arnaud Bibonne au chant et à la cornemuse des Landes, avec Florian Wichbert aux percussions et Léo Danet à la batterie. Alors ça, c'est un groupe que j'ai initié suite à quelque chose. Moi, j'ai toujours été un fanatique de rythme, notamment j'ai beaucoup dansé de danse latine, de danse antillaise, ce côté un peu déhanché dans la danse. Par ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'ai tendance en plus à mettre un peu sans le vouloir moi-même quand je danse, dans les danses de bal folk. Et ce truc est venu, beaucoup de groupes dans les années 2010 qui se formaient incluaient l'usage du stompbox, donc du kick, donc de la planche sonorisée, qui donnait un petit effet, rajoutait une percussion avec un son un peu plus ou moins électronique ou acoustique, mais qui était toujours un timbre répété comme ça, vraiment pour donner un petit côté dance floor. Moi, je trouvais ça sympa au début. Après, quand c'était partout, tout le temps, sur tous les morceaux, il y a un petit côté un peu uniforme. Et pour moi, c'était soit trop peu en termes d'éléments rythmiques. C'est-à-dire soit trop parce que c'était toujours la même chose et uniforme, soit trop peu parce que, quitte à mettre du rythme, j'aime bien le truc. Donc l'envie a été de monter un groupe avec à la fois batterie et percussion pour vraiment fournir le paysage rythmique, mais sur des répertoires plutôt trad. Donc là aussi, c'est un répertoire mixte avec Poitou et Gascogne et un petit peu bal folk généraliste dedans. Et donc, plutôt une musique centrée sur les grooves, sur le rythme, sur la polyrythmie. Et ça marche bien. Ça en fait un groupe qui, alors qu'on n'avait pas forcément pensé à ça au début, mais on s'est aperçu en cours de route que c'est un groupe qui passe très bien pour des gens qui ne sont pas danseurs aussi et qui ont juste envie de s'amuser, puisqu'il y a le côté, bah, c'est entraînant, il y a du rythme, c'est joyeux, c'est très très dynamique. Et on a donc sorti notre premier CD l'an dernier qui a très bien marché. On est très content de ça et c'est vraiment la formule un peu plus gros son avec laquelle je tourne.
Maréchine, partez. We'll be right back.
Dans les stages que tu proposes, il y en a un certain nombre, musique et danse, qui sont centrés sur le répertoire du Poitou. Parle-nous de ce répertoire, qu'est-ce qui t'attire en particulier dans la musique et la danse du Poitou ?
Dans la musique, il y a un côté familier, puisque du coup c'est quand même une couleur musicale que moi j'ai eue dans mes oreilles tout petit. Donc ça m'évoque quand même quelque chose de familier. C'est une musique qui est assez chouette parce qu'elle est très dynamique quand même. C'est des répertoires assez variés. On a beaucoup de danses différentes dans le Poitou. Même post-revivalisme, il y a quand même pas mal de danses différentes qui ont été ramenées dans le bal. Un répertoire qui s'est quand même beaucoup construit sur la musique de violon, qui est une musique que moi j'aime beaucoup, donc avec beaucoup de place sur les attaques, sur les doubles cordes, donc nous quelque chose qu'on peut transposer à l'accordéon en mettant plusieurs notes à la fois. Et puis dans la danse, j'aime beaucoup cette variété dans la danse, et il y a quelque chose qui est passé, moi je trouve, dans le bal folk, encore une fois post-revivalisme, c'est un côté un peu ludique. Bon, on a beaucoup ces danses héritées de la famille des contredanses, que sont les avant-deux et quelques figures de pas d'été, qui sont déjà avec des figures dont il faut se souvenir, qui sont appelées, qui donnent tout de suite un côté un peu ludique à ce qui se passe. Et la manière dont ça a été traité ensuite par le revivalisme a été aussi un peu ludique par rapport à des répertoires autres où je pense qu'il y a eu tout de suite une place très forte accordée à l'exécution, le bien faire, la belle danse. Nous, c'est arrivé un peu plus tard, après les autres. Au début, d'abord, ça a été s'amuser. Il y avait un truc très convivial et c'est resté. C'est-à-dire quand on va danser en Poitou, même maintenant, même dans les festivals où il y a beaucoup de gens, il y a toujours très peu de danseurs qui sont vraiment des très bons danseurs, des très bonnes danseuses de danse du Poitou, parce que c'est pas trop le message qui est passé d'abord. C'est d'abord les gens s'amusent, font la fête, et après, cerise sur le gâteau, il y en a qui dansent très bien et qui ont travaillé le truc. Donc, ouais, c'est quelque chose d'assez accueillant. Moi, ça m'a bien parlé, ça me parle encore pas mal. Ça, maintenant. La danse de couple, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me passionne, qui m'a passionné depuis le début. Et moi, je me suis amusé quand même à passer plusieurs années à prendre des cours dans d'autres disciplines de danse de couple. Donc, dans la famille du swing, il y a eu un peu de rock'n'roll, il y a eu du West Coast swing. J'ai pris un petit peu d'années de cours de tango argentin. J'ai fait beaucoup de danse latine, surtout de la salsa, mais un petit peu aussi d'autres danses qui sont satellites à la salsa, les danses antillaises. J'ai pas mal d'amis qui dansent le foro, ça m'arrive d'y aller. Et j'aime un peu cette espèce de... Je trouve que chaque danse a son lot de bagages, d'outillage, qui amène des trucs différents, mais qui sont toujours intéressants d'une manière générale sur les points de vue de guidage, de suivi, de vocabulaire en fait, de danse. Et les danses de couple en bal folk, elles sont de base assez simples, simples dans le sens, il n'y a pas mille et une variations, il n'y a pas mille et une choses différentes. Il y a quand même des exigences techniques, des exigences de groove, des exigences de guidage, mais on met pas l'aspect, on met pas l'accent sur de la technique comme les danses qui s'enseignent en cours maintenant. Je pense, je reviens sur des danses dont je parlais tout à l'heure. On ouvre, ça fait référence à l'ouverture du cadre. Donc le cadre, ça désigne en danse la manière qu'on a de se tenir l'un par rapport à l'autre. Et donc l'ouverture du cadre s'oppose au couple qu'on appelle fermé, c'est-à-dire le moment où on se tient avec le bras dans le dos de cavalière, les mains qui se touchent. À partir du moment où il n'y a plus cette posture, qu'on se tienne par une main, l'autre, les deux mains, ou qu'on se lâche, ça c'est une ouverture de cadre, et qui est quelque chose qui ouvre sur beaucoup d'amusement possible et surtout qui vient explorer le déplacement dans l'espace. Et moi, c'est quelque chose où spontanément, sans le chercher particulièrement, j'ai l'impression d'avoir vraiment creusé dans cette voie-là dans ma vie de danseur. Et ça me passionne. Et aussi peut-être qu'il y a un petit envie de proposer un petit peu quelque chose d'alternatif au moment où l'évolution récente de la danse de couple a été beaucoup dans la restriction justement de l'espace, c'est-à-dire danser beaucoup sur place, par opposition au déplacement dans le sens du bal qu'on a connu pendant toutes les années avant, beaucoup aussi une façon de danser de plus en plus proche, de plus en plus collée, ce qui n'est pas du tout quelque chose que je critique, parce que moi-même, par moments, ça m'amuse, mais ça m'intéresse aussi de pouvoir justement ramener aussi d'autres propositions pour reparler un petit peu aux gens de cette circulation dans le bal. On est pas mal d'animateurs et d'animatrices danse à proposer ça maintenant. Et puis, bah, toutes ces choses en ouverture qui sont un peu moins vues maintenant.
T'avoir entendu dire ou t'avoir lu quelque part dire quelque chose comme les évolutions contemporaines dans les baltrades, c'est qu'il y a une tendance à la disparition des pas et des spécificités des danses et qu'il y a une forme d'uniformisation et que c'est un peu dommage. Est-ce que c'était toi qui avais dit ça? Est-ce que tu penses ça?
Oui et non. Alors je ne suis pas sûr que ce soit moi qui ai vraiment dit ça avec ces mots-là. Après, ça c'est une... C'est un son de cloche qu'on entend. Disons que je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord si on tombe pas dans l'excès avec cette théorie. Là où c'est vrai, c'est que bah, effectivement, peut-être j'ai l'impression par rapport à une époque que j'ai moins connue, mais ou voire pas connue, si on se plonge par rapport à 30 ans en arrière, où beaucoup de gens aimaient apprendre une diversité de danse. Moi, les générations les plus jeunes à partir des miennes, certaines personnes aiment encore ça et vont se bouffer des ateliers à l'appel. Mais il y a toute une nouvelle scène, un peu à l'échelle européenne, de personnes qui sont recentrées vachement sur les danses de bal folk généralistes, c'est-à-dire les danses de couple, les mixeurs et les bourrées éventuellement, quoi. Et qui vont moins chercher à apprendre des formes alternatives, donc... Et comme il y a une mise en commun de toutes ces personnes, puisque tout le monde se retrouve facilement pour aller danser où que soit l'événement, il y a naturellement une sorte d'uniformisation qui est légèrement là, puisque bah, les gens fonctionnant par imitation et ayant plus de personnes qui le font par imprégnation que de personnes qui vont chercher dans des ateliers ou des formes spécifiques, bah, mécaniquement, ça tombe un petit peu effectivement dans une petite uniformisation. Peut-être aussi là où je suis d'accord, c'est que on sait tous que le bal folk est, par exemple, sur la... Alors là, je vais parler peut-être plus de la discipline des danses de couple, qui est celle que je connais pas mal aussi. Sur les danses de couple en bal folk, on sait que les gens... Enfin, ça, c'est pas centré sur l'élément technique. Donc ça, c'est super parce que c'est hyper inclusif. Du coup, on peut débarquer dans un bal folk, ne pas savoir rien danser, n'avoir jamais fait un atelier et s'amuser. Et ça, c'est précieux à mourir. Après, le pendant un peu inverse, c'est qu'on voit aussi, on est plusieurs animateurs, animatrices, à s'apercevoir que des fois, on a envie de faire passer le message et d'essayer de donner le goût à quelque chose d'un tout petit peu plus exigeant au niveau du travail et que ça mord pas du tout à l'hameçon. Donc, il y a peut-être une méthode à questionner hein, de notre part, c'est sûr. Et en même temps, des fois, il peut y avoir une petite frustration. Là où, par contre, je ne serais pas d'accord avec cette citation à l'excès, c'est que faut pas non plus... C'est souvent énoncé par des personnes qui ont acquis un savoir-faire de danse particulier et qui sont un peu frustrées de ne pas voir les autres personnes s'intéresser à ça. Mais il y a aussi, de toute façon, ça a sa vie propre et les formes de danse se modifient. Parfois pas dans le sens qu'on aimerait, mais elles se modifient quand même. Et on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire, je pense qu'on est dans une période plutôt de grosse vitalité du bal folk. Et c'est plutôt une belle chose. Donc j'ai envie de dire... Quand on se retrouve dans le rôle de transmetteur, bah, charge à nous d'essayer de trouver une manière d'intéresser les gens à certaines choses. Puis bah, si ça ne marche pas, c'est que c'est plus l'heure ou pas encore l'heure. Et puis peut-être un jour.
Sur ton ton site, je crois que c'est à la fin de ta biographie, il y a une formule qui dit que tu proposes de danser comme un musicien et de jouer comme un danseur. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là?
Ouais, bah en fait, c'était un peu un constat que j'ai fait après pas mal d'années. Enfin, le premier constat que j'avais fait, c'est le côté danser comme un musicien. C'est-à-dire que dans la manière de danser, dans la manière de poser mes pieds au sol et dans la manière, par exemple, de faire des variations rythmiques quand je danse, il y a toujours une musique, comme une musique de percussion dans ma tête. Le rapport que j'ai à mon déplacement et à la manière dont je pose mes pas et trucs est extrêmement rythmique et donc pour moi invariablement extrêmement musical. Mais dans l'autre sens, en fait, tout ce qui se passe dans la musique pour moi est lié au geste, au mouvement, à la manière de bouger, à la manière d'accompagner l'intention musicale avec le corps. Il n'y a pas que les doigts, il n'y a pas que les bras qui bougent, il y a le torse, il y a le bassin, il y a les pieds, il y a quelque chose qui est vraiment... Et je finis par m'apercevoir au bout d'un moment que ça procède quand même de la même intention. C'est vraiment une intention de mouvement liée à la musique dans les deux cas. Et qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui se passe quand je suis en bas sur la piste de danse ou quand je suis en haut sur la scène. C'est une intention, un truc, il y a une pulsation, il y a quelque chose, il y a le corps qui s'articule autour, ça fait du son, que ce soit dans la tête ou à travers l'instrument. Mais voilà, donc c'est super et à la fois, des fois, ça a des limites parce que ça fait interagir avec des personnes pour qui c'est pas forcément le cas. Et des fois, ça peut arriver que je parle un peu mon langage tout seul aussi par moment. Donc j'essaye d'essayer de percevoir les choses d'autre manière aussi. C'est passionnant, c'est... Ça prendra une vie et il n'y en aura pas assez.
Être réjoui, oh qu'on me mette dans un coin, que la couchée ne me voit point.
Et dans l'écho du parquet, c'était Petit Piment, l'un des groupes de Lucas Thébault, avec une suite de trois marchoises. Le grand déroulement, quand Renaud de Guerre vint, et Marchoise à Madeleine. Et c'était extrait de l'album Chill, qui en vente chez tous les bons disquaires, c'est-à-dire chez Phonolite. Et maintenant, quelque chose de complètement différent, puisque Amélie, tu vas nous parler de Sourdure.
Et oui, le groupe Sourdure qui s'écrit avec ENT à la fin, comme un verbe à la troisième personne en fait. Il ou elle sourdure. Donc on peut imaginer sourdurer au présent, qui signifierait peut-être faire un bruit mat et insistant à intervalles réguliers dans le seul but d'agacer ses voisins. C'est pas mal, non? Alors, on peut aussi... on peut pas imaginer, c'est que c'est pas le passé simple de sourdir, qui fait comme tout le monde sait, sourdir, ENT.
Il sourdir. C'est pas ça, non.
Pour ceux qui ne savaient pas, hein, comme moi juste avant, ça, sourdir, ça existe vraiment et ça veut dire jaillir et sortir de terre en parlant d'un liquide.
Ah, pas mal, va aussi bien avec leur musique. Ça.
Voilà, ouais. Et qui est synonyme de sourdre.
Ouais, c'est le côté à la fois tellurique et aérien de leur musique qui jaillit. Ouais.
Exactement, mais alors la chronique conjugaison s'arrête là, puisque plus simplement, on peut résolument affirmer que sourdure, c'est le pluriel de sourdure, eux, qui est, lui, le projet musical de Ernest Berghez tout seul, au violon et à la voix, et puis le violon et la voix largement agrémentés d'outils électroniques. Alors le pluriel naît d'une formation en quatuor, où il est accompagné de Jacques Pouèche à la cabrette, Elisa Trébouville au banjo et au fifre, et Colin Delzan au violoncelle, un violoncelle qu'il joue d'ailleurs horizontal comme une guitare. Ce n'est pas lui qui joue sur l'album dont est extrait le morceau qu'on écoutera juste après, L'herbe de détourne, puisqu'il a rejoint le groupe tout récemment. Mais on sait qu'on peut le retrouver, Colin Delzan donc, et Elisa Trébouville, dans un autre groupe excellent qui s'appelle L'Équipe, qu'on vous conseille d'aller écouter. Alors, pour revenir à Sourdure, on part d'un répertoire du Massif central et d'une langue occitane, qui sont tous les deux largement malaxés, distordus à souhait, mixés d'influences diverses, et puis qui donnent un rendu assez difficile à cataloguer, en tout cas incroyablement puissant.
C'est un peu les Face No More du trad, en quelque sorte.
Ah oui, j'aurais pas forcément dit ça, mais...
Ah ouais. Les groupes de Mike Patton.
Moins le rap, quand même.
Ouais.
On vous laisse goûter la Dumenchada, qui a fait aussi l'objet d'un clip qui a... aussi fantasque et aussi incongru que la musique qui en découle.
La dimanche, on a pris la vie des billets, la tête.
Et après avoir écouté Sourdure, nous allons maintenant vous communiquer une information à propos de la nouvelle émission de l'ami Gilles Moncoudiol qui s'appelle Musique de sac et de cordes. Et comme chaque mois, il nous a préparé une petite capsule qui présente l'émission du mois. Voici ce que nous propose Gilles.
Une émission que vous pouvez écouter sur Radio BLV, Radio Bourg-les-Valence.
Par un beau jour, je m'en vais voir ma maîtresse. C'était pour lui souhaiter le bonjour, pour lui conter le secret de mes peines au sujet de ce grand mal d'amour. Tra la 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 la, au sujet de ce grand mal d'amour. Charmante Louise, prête-moi donc ta cage pour y loger mon petit Sansonnet. Ah, il est beau, il est doux, il est sage, dans un bosquet, il est bien indiscret. Tra la la la, la 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 la, dans un bosquet, il est bien indiscret.
J'avais assisté, il y a quelques années, à un spectacle intitulé « Autour du plaisir des femmes ». Un spectacle provocant, drôle et intelligent, interprété par Carole Geoffrin, comédienne, conteuse et chanteuse. Et c'est donc avec une certaine curiosité que, plus récemment, je suis allé l'écouter dans Les Hauts Talons d'Achille, un duo qu'elle forme avec Théo Morel, musicien et chanteur. Une création autour des chansons traditionnelles, d'où est extraite d'ailleurs cette chanson au titre à double sens, « L'oiseau dans la cage ». Le monde des musiques traditionnelles est un archipel ouvert aux quatre vents, facile d'accès, mais s'imprégner des manières de jouer, des manières de chanter est un long chemin qui nécessite plus qu'une simple visite. Carole a pris le temps d'explorer le monde des chansons traditionnelles en s'intéressant plus particulièrement à celles qui parlent de la vie des femmes et en assumant pleinement ses textes d'un autre temps, mais dont elle défend l'actualité. Le spectacle s'intitule « La savoureuse irrévérence des chants paysans », intitulé dont vous comprendrez mieux le sens à l'écoute de cette nouvelle émission. Une émission que je vous invite à aller écouter en ligne ou télécharger sur la page de musique de sac et de cordes sur le site de radiobelv.com. Bonne écoute.
Quand je suis vers toi, mon aimable brunette, n'y a pas pour moi de moment plus heureux. Quand je te quitte, je dis toujours en moi-même, me v'là du rang des amants malheureux. Tra la la la, la 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 la, me v'là du rang des amants malheureux. Tra la la la, la 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 la, me v'là du rang des amants malheureux.
Et nous allons finir cette 18e édition de l'Écho du Parquet, tout en douceur, avec un extrait d'un album unique d'un groupe éphémère et aujourd'hui disparu. Le groupe s'appelle VAMM, V-A-M-M, et leur album est paru en 2013. Et il s'agissait du regroupement de trois musiciennes dont la biographie nous dit quelque chose de leur musique, puisqu'il y avait au violon l'écossaise des îles Shetland, Catriona MacDonald, dont la page Wikipédia nous dit qu'elle est « considered to be one of the world's leading traditional fiddle players ». Voilà, considérée comme une des plus grandes joueuses de violon au monde, en tradition. Je soupçonne quand même sa maman ou son frère d'avoir rédigé la notice Wikipédia en question. Il y avait également la mandole Marit Felt, qui a grandi en Norvège de parents suédois. Et il y avait au violon et à l'alto Patsy Reid, qui est elle aussi écossaise et qui, selon son propre site, est une des violonistes les plus demandées du Royaume-Uni. Là, on peut penser que c'est rédigé par son agent. Marit Felt et Patsy Reid jouent toujours ensemble aujourd'hui avec une violoncelliste au sein d'un autre trio qui s'appelle Lear. Mais à l'époque, sur ce disque de VAMM, la musique était fort logiquement une combinaison de toutes ces influences biographiques des trois musiciennes, donc avec un mélange d'origine celtique et d'influence nordique. Et donc, si on aime bien les deux, on aime bien le mariage des deux. C'est vraiment très bien. Et on se dit donc au revoir avec une association de deux thèmes, Feldguben et To the West. À la prochaine.
À plus tard. Et le morceau s'appelle du coup To the West.
Les deux, Feldguben et To the West associés. Thank you.
Thank you.